Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis Quentin Aoustin, passionné par le développement de l'humain et cofondateur de Canopy.com, Q-A-N-O-P-E-E.com, l'application qui vous permet de trouver le meilleur praticien en médecine complémentaire, faire un check-up bien-être pour faire le point et recevoir du contenu gratuit pour prévenir l'apparition de maladies et être au top de votre forme. Avec notre podcast Génération Canopée, je vous propose d'aller à la rencontre de personnalités, artistes, sportifs, entrepreneurs ou spécialistes pour comprendre comment ils font pour être heureux, être en bonne santé et performant, pour que nous aussi derrière, nous puissions être plus heureux, en meilleure santé et plus performants. Et ça, franchement, ça m'est vraiment très cher. Alors, prêt à embarquer avec nous ? Je le savais. Let's go. Bonjour et bienvenue dans le podcast Génération Canopy. Aujourd'hui, un nouvel épisode avec un voisin québécois. J'ai nommé le docteur Sébastien Perron, médecin spécialiste en médecine interne et chargé d'enseignement clinique de l'Université de Montréal. Sébastien est également conférencier, membre de plusieurs comités scientifiques et l'auteur du livre « Ton médecin ne te guérira pas ». Comme vous vous en doutez, nous allons parler bien-être, santé et surtout comment vivre longtemps sans maladie chronique, sans médicaments, et bien dans sa peau, et bien sûr avec un gros panaché de prévention bien sûr derrière. Alors sois le bienvenu Sébastien, comment te sens-tu ?
Bonjour, merci pour l'invitation, je me sens très bien, j'espère que c'est pareil pour vous.
C'est très bien en tout cas pour Vianney et moi, et puis j'espère que l'ensemble de nos auditeurs également. Sans plus attendre, on aime beaucoup poser cette question, c'est qui es-tu Sébastien, vu par Sébastien?
D'accord. Alors moi, d'abord et avant tout, je me définis comme un papa de 4 enfants, dans la mi-quarantaine. Je suis, comme tu l'as si bien dit dans mon introduction, un spécialiste en médecine interne. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien, c'est quoi la médecine interne? Dans le fond, si on peut dire que le pédiatre est le spécialiste de l'enfant, que le gériatre est le spécialiste de la personne âgée, le spécialiste en médecine interne, c'est en quelque sorte le spécialiste de la santé physique de l'adulte. Alors, je vois surtout des gens avec des maladies complexes, des maladies qui touchent plusieurs organes à la fois. Et donc, c'est un peu comme ça que je me définis professionnellement. Et maintenant aussi, je me définis comme étant l'auteur de ce petit livre ici qui s'appelle « Ton médecin ne te guérira pas ». Un médecin qui est un livre qui est paru au Québec en septembre 2022.
Ok, et donc on va pouvoir explorer de par quelques questions justement ce livre, et bien évidemment on mettra dans les notes du podcast justement des liens qui permettront d'aller l'acheter si les auditeurs le souhaitent, et puis on mettra tous les liens dont tu voudras bien nous envoyer. D'accord, bon, ça marche. Et toi, comment t'es tombé dedans en fait? Comment t'es tombé dans la marmite, si je puis dire, de la médecine? C'est quoi ton histoire?
C'est difficile de savoir qu'est-ce qu'on va faire quand on est plus vieux, là, puis je suis là-dedans avec mes adolescents actuellement. Je pensais pouvoir les conseiller, puis finalement, c'est beaucoup plus complexe. Et puis, comme beaucoup de médecins, ça a été tout simplement, ben, t'as des bons résultats scolaires, est-ce que t'as envisagé faire la médecine? Et puis, c'est un peu comme ça que j'ai abouti. Mais je pense que plusieurs personnes peuvent y trouver quand même leur compte en médecine parce que c'est quand même un champ très large. Il y a moyen de faire de la recherche, d'être avec des gens ou non, de faire du travail manuel ou plus cérébral. Donc, tout le monde peut y trouver son compte et j'y ai trouvé mon compte moi aussi.
Ok. Et donc, très vite, en fait, tu as enclenché une dynamique là-dedans parce que tu avais peut-être aussi de la famille qui était dans la médecine? Pas du tout.
Et non. Okay. Il y a juste moi. Il y a juste moi, c'est un monde que j'ai découvert tout seul, mais que j'ai bien aimé. Mais ça fait maintenant une quinzaine d'années que je pratique ma spécialité. Et en fait, comme la plupart des médecins, ce qui occupe presque 80% de notre temps, ce sont des maladies chroniques. Puis c'est probablement une proportion qui est encore plus grande pour la mienne. Et faut bien réaliser que les maladies chroniques actuellement que l'on connaît était plutôt inexistante il y a un siècle ou deux. Il y avait pas tant de gens qui présentaient de l'obésité, du diabète de type 2, des crises cardiaques, de l'ostéoporose. Ce sont des maladies que l'on dit des maladies du monde moderne, des maladies de la civilisation. Et quand les gens se présentent à moi, ben souvent, c'est ce que je me dis, c'est qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour prévenir cette maladie-là, sachant que près du 3/4 d'entre elles sont justement reliées à notre mode de vie. Et c'est pour ça que, justement, à la moitié de mon parcours professionnel, mon orientation change un petit peu, d'où le bouquin, justement, pour essayer de dire aux gens, la maladie, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas, on n'est pas condamné à être malade nécessairement, il y a moyen de prévenir tout ça, et voici comment le faire.
Ouais, et la prévention, c'est un sujet qui nous parle bien sûr à tous les deux. Mais peut-être une petite définition de la maladie chronique. C'est vrai qu'on entend voilà, la maladie, qu'est-ce que c'est ? Et puis maladie chronique, tu parlais d'obésité, de diabète. Tu peux nous en dire une petite définition là, pour nos auditeurs, s'il te plaît ?
Oui. Alors, il faut distinguer les maladies qui sont aiguës, comme par exemple une infection. Vous attrapez une infection, vous faites un accident, vous vous cassez une jambe, ça, ce sont des maladies aiguës et ce sont des maladies qui vont être passagères. Et puis ça, la médecine est plutôt bonne pour guérir ça. Pourtant, il y a un siècle, c'est de ça qu'on mourait. On mourait d'infections, on mourait d'accidents parce que on n'avait pas les antibiotiques, on n'avait pas des bonnes techniques chirurgicales pour pouvoir réparer des os cassés ou une rate lacérée. Maintenant, la médecine s'occupe bien de ça. Alors, on est passé de cette mort rapide qu'on avait anciennement à l'époque qu'on n'avait pas les antibiotiques et tout, à une mort plus lente maintenant où on est capable de traiter les maladies aiguës, mais les maladies chroniques, elles sont par définition, selon la définition de l'Organisation mondiale de la santé, incurables. Donc, oui, certaines peuvent être légèrement renversées, mais les maladies chroniques, dans le fond, ce sont des maladies que j'aime bien comparer à la rouille dans nos voitures. Quand la rouille s'installe dans les portières, on ne le sait pas. Et le jour où on s'en aperçoit, c'est lorsque la rouille perce la peinture. Mais à ce moment-là, peu importe ce que vous allez pouvoir faire, la rouille ne disparaîtra jamais. Vous allez enlever la rouille, mettre de la peinture pour cacher l'endroit où vous avez sablé. La rouille va toujours réapparaître. C'est la même chose avec les maladies chroniques. Donc, pensez à la grande majorité des maladies que vous connaissez et pour lesquelles les gens prennent des pilules, donc les problèmes cardiaques, les maladies pulmonaires liées au tabagisme, les cancers, la cirrhose du foie, l'insuffisance rénale, l'ostéoporose, l'arthrose, la démence. Ce sont tous des maladies pour lesquelles nous n'avons pas de solution pour guérir les gens.
D'accord.
Tout ce qu'on fait, c'est qu'on essaie, notre rôle comme médecin, c'est d'essayer de prendre le contrôle sur ces maladies-là pour en réduire les symptômes, ralentir l'évolution, diminuer les risques de complications et permettre à la personne de vivre, on espère, le plus longtemps possible malgré sa maladie. Donc, c'est pour ça que je disais, on est passé d'une mort rapide, pardon, à une mort plutôt lente où on prend la maladie et on l'étire le plus longtemps possible pour permettre à la personne de vivre le plus longtemps possible malgré ses maladies.
Et donc là, il y a deux choses. C'est avant de passer dans le mode préventif, j'ai envie de dire, pour ces malades, justement, les personnes qui sont atteintes justement d'obésité, qui sont atteintes de démence, comme tu le citais, de toutes ces problématiques, on va dire chroniques, de cette maladie chronique, quels sont aujourd'hui les outils ? Bon, il y a les médicaments, mais est-ce que toi, tu préconises aussi d'autres thérapies potentielles voilà, que vous avez l'habitude de mettre en avant au Québec, par exemple ?
Bon, c'est sûr que la médecine est beaucoup articulée actuellement sur les thérapies comme les médicaments, les chirurgies. Mais il faut voir le traitement, la prise en charge d'une maladie comme étant une pyramide. Et puis pour moi, les médicaments, les chirurgies viennent plus vers le sommet de la pyramide et ce qui constitue la base de la pyramide devrait demeurer notre mode de vie. Okay. Je vous donne un exemple. Quelqu'un est déclaré avec un diabète de type 2. Si on ne fait que donner des médicaments sans s'occuper du mode de vie qui est responsable de l'apparition de cette maladie-là, on va avoir un échec.
Bien sûr.
Donc, la personne, on va lui donner un médicament aujourd'hui, mais dans 5 ans, elle devra avoir 2 médicaments. Dans 10 ans, elle devra avoir 3 médicaments et ainsi de suite. La maladie va continuer d'évoluer. C'est pour ça qu'en construisant des pyramides où la base, qui est le mode de vie, n'a pas été bien adressé, on construit sur une base fragile, la base craque et la pyramide s'écroule. On a des échecs thérapeutiques. Alors, pour moi, peu importe la maladie, Étant donné qu'on a dit que la grande majorité de ces dernières étaient en lien avec notre mode de vie, si on n'adresse pas le mode de vie qui est la base de notre pyramide, on va avoir des échecs et la maladie va continuer de se nourrir. Mais au-delà de cette maladie-là, il faut avoir une vision plus large aussi. Parce que si on n'a pas adressé l'alimentation, l'activité physique, le sommeil pour cette personne diabétique que je viens d'illustrer, il y a d'autres maladies qui ont des racines communes qui, elles aussi, vont faire leur apparition au fil du temps. On peut penser à l'hypertension, les problèmes cardiaques, même le foie gras. Le foie gras, c'est en train de devenir la première cause de cirrhose du foie. Okay. Et l'insuffisance rénale, les problèmes cognitifs, ce sont tous des maladies qui ont les mêmes racines. Donc, en n'adressant pas ces racines-là, on permet à d'autres maladies d'évoluer et de faire leur apparition. C'est pour ça que c'est important d'avoir une vision globale de la santé d'une personne. Et ce n'est peut-être pas suffisamment ce qu'on fait en médecine actuellement. On a une vision en silo où on s'occupe de chaque maladie de façon individuelle et c'est au détriment de la personne.
Ouais, je vois bien et c'est vrai que y a deux modes que je vois. Il y a bien sûr son mode personnel où on devrait avoir en fait mettre des choses en place dans son quotidien pour prévenir toutes ces maladies et puis une fois que si jamais la maladie est présente, faire en sorte que son environnement soit le plus sain possible. Mais c'est vrai qu'en France, alors tu me dirais au Québec, mais on a ce qu'on appelle des médecins généralistes. Alors aujourd'hui c'est une vraie problématique parce qu'ils n'ont que 15 minutes par patient pour pouvoir les accompagner. C'est vrai que c'est très très limité aujourd'hui, mais en tout cas pour la plupart des Français, en tout cas des médecins français, mais du coup ce serait pas le rôle justement du médecin généraliste d'avoir cette vision globale et d'envoyer chez des spécialistes derrière pour traiter ça? C'est un peu ça normalement.
Je pense que la maladie appartient bien à la médecine. Ouais. Je pense que oui, on gère bien la maladie. Par contre, la santé devrait appartenir à un groupe beaucoup plus large de personnes, dont le public lui-même.
Bien sûr. Ouais.
Et puis, il faut réaliser, je ne suis pas au courant de la formation des médecins français, mais au Québec, c'est une vraie aberration. Sur 7 à 10 ans d'université, on a environ 4 heures de cours sur l'alimentation. Ce qui est nettement déficient, on s'entend. Et c'est encore pire pour l'activité physique. Alors, le médecin n'est pas un spécialiste de la nutrition, n'est pas un spécialiste de l'activité physique non plus, n'est pas un spécialiste de la psychologie, n'est pas un spécialiste donc de plusieurs facteurs importants du mode de vie. C'est pour ça que ce qui est de plus en plus préconisé, c'est l'approche multidisciplinaire où plusieurs intervenants vont venir interagir pour pouvoir assurer la prise en charge d'une personne. Et puis, je vous dirais, ça fonctionne assez bien une fois que la personne a une maladie déclarée. Une fois que la personne est malade définitivement, le médecin et toute une équipe vont venir autour de cette personne-là pour essayer d'améliorer sa santé.
Okay.
Mais par contre, on attend toujours que la maladie fasse son apparition, alors qu'on aurait dû agir nettement en amont. On aurait dû intervenir avant, mais on ne peut pas prétendre qu'il est possible d'offrir à chaque citoyen une nutritionniste, un kinésiologue, un psychologue, etc. Donc, c'est pour ça qu'il faut apprendre à prendre soin de soi. Mais il faut aussi transformer notre société pour la rendre plus propice à la santé.
Tu as un exemple?
Oui, bon, par exemple, de notre côté en Amérique du Nord, vous, c'est moins pire du côté de l'Europe, mais de notre côté en Amérique du Nord, ben oui, mais vous avez vos faiblesses, je vais y venir.
Bien sûr, bien sûr.
De notre côté en Amérique du Nord, l'offre alimentaire est vraiment catastrophique. Ce qui fait que 50% des calories ingérées par un Canadien ou un Américain, ce sont des produits ultra transformés avec toutes les conséquences sur la santé que vous connaissez.
Bien sûr.
Chez nous, le transport en commun, c'est inexistant. Donc, on est toujours en voiture. dans le trafic, etc. Donc, pour nous, si on combine les heures en auto, le travail, etc., l'activité physique, c'est quelque chose de nettement déficient. En Europe, c'est moins pire. Vous bougez un peu plus, vous mangez un peu moins, mais mon Dieu, vous êtes, avec la cigarette, vous avez tout tué ça. Et je ne comprends pas comment encore 25... Je regardais les statistiques tantôt, encore comment 25 % des Français peuvent fumer. Pour moi, ça ne me rentre pas dans la tête. Ouais. On était là, nous, il y a 20-25 ans. Et maintenant, on a réussi à diminuer ça à 10 à 15 % et je m'en offense profondément qu'il y ait encore 10 à 15 % des gens qui fument parce que de tous les facteurs du mode de vie, le plus dommageable, c'est nettement la cigarette. Et ouais. Quelqu'un qui fume vient de se priver de sa liberté de choisir de quoi il va mourir. Littéralement. Une personne qui fume, c'est une personne... a 50 % des chances de mourir en lien avec son tabagisme. Il n'y a personne qui serait assez saine d'esprit pour jouer à la roulette russe. C'est un jeu que vous connaissez sur la roulette russe. Ouais, donc, ouais, avec le pistolet, une chance sur 5 à une chance sur 6 qu'il y ait une balle à l'intérieur du fusil parce que, justement, une chance sur 5 que quand vous appuyez sur la détente, il y a une balle qui sort. Personne jouerait à ça. Pourtant, c'est reconnu qu'un bon fumeur, là, quelqu'un qui fume plus qu'un paquet de cigarettes par jour, a une chance sur 3 de développer un cancer du poumon au cours de sa vie. C'est plus que jouer à la roulette russe. Le problème, c'est que la balle, on sait, elle sortira pas dans les prochaines secondes. Elle va peut-être dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et puis, la pensée magique des gens, c'est dire, on verra quand tout ça arrivera. Et faut bien avoir une raison pour mourir un jour. Ça, c'est de la pensée magique. Ça fait quand même 15 ans que je pratique la médecine et je peux vous assurer que peu importe l'âge, c'est relativement rare que je vois des gens qui disent « Oui, j'ai eu une belle vie, j'ai fait des abus, j'en paye le prix, je suis prêt à mourir. » Les gens, même s'ils ont 80 ans, vont dire « Je ne veux pas mourir tout de suite parce que je veux voir mon petit-fils qui va naître dans les prochains mois, parce que je veux me réconcilier avec ma sœur avec qui je suis en chicane, parce que je veux être là pour ma femme qui est malade. » Il y a tout le temps des raisons pour continuer de vivre. Donc, on devrait prendre des moyens pour justement se permettre d'avoir cette vie le plus longtemps possible sans maladie. Et pour moi, la cigarette, j'y reviens, ça me rentre pas dans la tête. Ça double le risque cardiovasculaire aussi.
C'est dingue. Et comment tu l'expliques? On reprend un petit peu de temps sur ça, mais comment tu expliques qu'au Canada, vous soyez largement plus en avance que nous, Français, par exemple, sur le tabagisme?
Je sais qu'au Québec, il y a quand même des mesures qui ont été prises il y a 20-25 ans qui sont quand même très importantes. Par exemple, on ne vend plus de cigarettes sauf dans certains points de vente précis et elles ne sont plus facilement visibles. Elles sont derrière des panneaux. Il faut le demander au commis qui, lui, va le chercher derrière un panneau pour nous le donner, mais on ne les voit plus. Okay. Ensuite, la cigarette est interdite dans la plupart des lieux publics, même sur les terrasses, et puis dans des lieux publics comme... par exemple, les hôpitaux, les écoles, les restaurants, il faut s'éloigner à, je crois, 9 mètres du lieu public pour pouvoir aller fumer. On a taxé beaucoup, c'est très dispendieux de fumer aujourd'hui. On a fait des campagnes contre le tabagisme très, très, très agressives. On a mis des photos de plutôt dégoûtantes de maladies, de cancer du poumon, cancer de la langue, de gens avec de l'oxygène en permanence pour décourager sur le paquet de cigarettes les gens à consommer ça. Donc, je pense que ça a porté fruit, tout ça, puis on en retire les bénéfices aujourd'hui, puis on a même vu une diminution de notre mortalité avec cette modification d'habitude.
Waouh, ça c'est génial et rien de mieux que les statistiques pour prouver justement les bienfaits en tout cas de supprimer ce poison quelque part.
Oui, parce qu'on parle souvent des cancers et puis on a raison d'en parler parce que c'est environ une personne sur trois que la cause du décès est un cancer. Mais tant en Amérique du Nord qu'en Europe, le cancer qui tue le plus de gens, c'est le cancer du poumon. En fait, le cancer du poumon tue plus de gens que les cancers du sein, de la prostate et colorectaux réunis. Le cancer du poumon, c'est une bête noire actuellement. Et c'est bête quand on pense que 90% des cas de cancer du poumon pourraient être prévenus tout simplement en évitant de fumer.
C'est complètement dingue de voir ça. C'est vrai que quand tu regardes un paquet de cigarettes et tu vois, bon ben voilà, il y a des images parfois choquantes, mais à croire que maintenant ça fait partie du paysage, tu vois. Et ça c'est bon, ça dégoûte peut-être que ceux qui ne fument pas, j'ai l'impression. En tout cas, il y a un message qui est lancé, c'est si vous pouvez, pour ceux qui fument, arrêtez de fumer, s'il vous plaît, pour vous.
Oui, puis il y a même une étude, parce que dans le fond, ce que je dis, c'est qu'on pourrait prévenir 80% des maladies cardiaques, 80% des AVC, 80% des diabètes et 40% des cancers en faisant quatre choses simples, qui sont bien manger, bouger, ne pas fumer et ne pas surconsommer de l'alcool. Donc, très, très gros pouvoir préventif avec des mesures simples. Mais il y a des études qui ont montré que chez quelqu'un qui mange bien, qui bouge régulièrement et qui maintient un poids santé, malgré ses bonnes habitudes, s'il fume, il vient de complètement annuler les trois autres bonnes habitudes. Et puis d'ailleurs, je le dis souvent à mes patients, s'ils arrêtent de fumer, ils vont diminuer de 50% leur risque cardiovasculaire. Et je n'ai aucune pilule qui soit aussi puissante que ça. On parle souvent des statines, des médicaments pour diminuer le taux de cholestérol. Ces médicaments-là, même s'ils font partie de la révolution cardiovasculaire des 20 dernières années, ces médicaments-là diminuent d'environ 30% le risque cardiovasculaire. Donc, ce n'est pas aussi puissant que l'arrêt tabagique. Il n'y a rien de plus fort que ça.
Bon, mais je crois que là, il n'y a pas à dire, quoi. Il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Arrêtons de fumer. Le message est bien passé. Tu parles de mode de vie sain. Donc, tu parles donc de bouger, de manger, de bien manger, ne pas fumer, limiter sa consommation d'alcool, en tout cas. Il y a autre chose où, et puis, derrière chacun de ces piliers-là, quand tu parles de bien manger, c'est quoi pour toi? Et bouger, c'est quoi? C'est de se dire, bah, je vais prendre l'escalier plutôt que l'ascenseur. C'est vraiment être dans un système d'activité de 20-30 minutes par jour?
C'est ça. Alors, premièrement, essayons de simplifier tout ça parce que il y a plusieurs groupes, personnes qui essaient de complexifier tout ça de façon à évidemment amener l'attention vers eux et peut-être pouvoir en retirer des sous. Ce n'est pas mon intention à moi. Essayons de simplifier tout ça et rappelons-nous que l'humain n'est qu'un animal comme les autres. On partage 98% de notre ADN avec le chimpanzé. Et le chimpanzé, lui, pour rester en santé, ne se casse pas la tête autant que l'humain peut le faire. Il se lève le matin, il mange naturellement comme un chimpanzé, il bouge naturellement comme un chimpanzé, il réussit à faire sa vie comme ça. Alors, c'est justement ce qu'il faut réaliser. Ce qu'il faut réaliser, c'est que l'humain, on a évolué sur 5 millions d'années pour être en parfaite harmonie avec l'environnement dans lequel on vivait. Mais ces 5 millions d'années-là, on les a passées dans un environnement qui ne ressemble en rien à celui que l'on a développé aujourd'hui depuis la révolution industrielle. Donc, l'environnement pour lequel nous sommes adaptés, c'est celui dans lequel on vivait il y a environ 12 000 ans, lorsqu'on était des chasseurs-cueilleurs. Qu'est-ce qu'on mangeait quand nous étions des chasseurs-cueilleurs? Premièrement, on n'avait pas l'abondance alimentaire. Donc, il faut éviter de manger trop. Il faut juste manger à sa faim. Ça, c'est déjà très bien.
Ok, donc évidemment, ça, je me permets de faire un petit point là-dessus. Et c'est vrai que c'est aussi manger de manière calme et on va dire un peu plus lente que la plupart des gens qui ont tendance à manger, parce qu'on mange vite et puis le système de satiété arrive bien plus tard.
Exactement, parce que dans le fond, ce qui va calmer notre faim, c'est quand on va mastiquer. Mais souvent, les aliments qui nous sont offerts, ce sont du fast-food ou l'équivalent, c'est des aliments qui se mastiquent très rapidement. Donc, notre cerveau n'a pas le temps de s'allumer, à savoir qu'on est en train de mastiquer et déjà c'est avalé. C'est encore pire pour tout ce qui est boissons sucrées. Là. Il y a aucune mastication, c'est rapidement ingéré. Donc, effectivement, il faut prendre le temps de prendre conscience de ce qu'on mange, éviter de manger avec nos écrans, nos téléphones, parler avec des gens, ralentir. Prendre des aliments qui se mastiquent, des aliments avec des fibres, ça va aider. Donc, faire attention à la quantité de nourriture qu'on mange. mais faire attention aussi à la qualité. Si on revient encore à notre chasseur-cueilleur, tout ce qu'il mangeait, lui, c'était des aliments évidemment naturels. Donc, sans pesticides, sans additifs, sans gras ajoutés, sans sucre ajouté. Et puis, les aliments, à cette époque-là, étaient extrêmement riches en fibres. Chose qu'on a voulu aussi se débarrasser, les fibres, parce que c'était moins agréable en bouche, c'était moins palatable, plus difficile à mastiquer. Donc, le pain blanc plutôt que le pain brun, le riz blanc plutôt que le riz brun. Donc, essayez d'aller chercher les aliments les plus naturels possibles. Il est beaucoup mieux de manger une pomme qu'une compote de pommes. Il est beaucoup mieux de manger un morceau de poulet qu'un pâté au poulet. Donc, essayez d'aller chercher des aliments naturels, le moins transformés possible. Et puis, juste ça, c'est déjà un très bon départ. Les boissons sucrées, pour moi, ça devrait être éliminé complètement. C'est la source de sucre ajouté numéro un. Et il y a même des données qui montrent qu'une boisson sucrée par jour augmente notre poids de jusqu'à 5 livres par année, ce qui n'est pas banal. J'ajouterais les fruits et les légumes. Je comprends que dans la période inflationniste qu'on vit actuellement, les fruits et les légumes, ça peut devenir plus dispendieux, mais il faut trouver des trucs parce qu'il faudrait idéalement que 50% de notre assiette quotidienne soit constituée de fruits et des légumes. Et c'est souvent le premier conseil que je vais donner. Ajoutez des légumes à votre assiette et puis juste l'effet bourratif, donc la satiété qui vient avec la consommation de légumes, va faire que nécessairement les autres éléments dans l'assiette vont être repoussés et diminués. Donc, pour moi, l'alimentation, ça pourrait se résumer à ça. Mais on manque cet essentiel-là parce que la mode est à se questionner sur des petits points. Donc, c'est l'arbre qui cache la forêt. On part des petits points comme, est-ce que je devrais faire du jeûne intermittent? Est-ce que je devrais éviter le gluten? Est-ce que je devrais éviter les produits laitiers? Jusqu'à quel degré dois-je faire la cuisson de mes aliments? Donc, par ces petits points-là, on oublie les gros points, comme celui, par exemple, que notre consommation de sucre a été multipliée par 15 depuis 200 ans et que notre consommation de viande a bondi de 250% depuis 50 ans. On mange trop de viande, pas assez de fruits, pas assez de légumes, on mange trop et trop de sucre.
Et trop de sucre. Non mais tu prêches un convaincu là-dessus et ça, l'alimentation une fois de plus est tellement essentielle. D'ailleurs, c'est Hippocrate de souvenir qui disait que ton alimentation soit ta seule santé, je crois. Quelque chose
que ton aliment soit ton médicament,
ou quelque chose en effet comme celui-ci. Et en fait, c'est ça, c'est en fonction de ce que tu manges, ben ça va avoir un impact sur ta vie court-termiste même, hein. On le voit tout de suite entre manger un pain blanc ou un pain brun, ben on sait que il y a un pic de glycémie qui va arriver derrière potentiellement avec tout dépend ce qu'on met en plus dessus. Si on met de la confiture petit-déj à la française, bon là c'est le c'est le jackpot. Mais il y a vraiment aussi la vision moyen et long-termiste où en fait, si on mange correctement et sainement, sur le long terme, on prévient toutes ces maladies dont tu fais mention ou tu as fait mention tout à l'heure.
Mais effectivement, je crois aussi que l'alimentation est un pilier indispensable d'une bonne santé, mais qui malheureusement est trop souvent négligé. L'autre pilier qu'on parlait, c'est l'activité physique. Encore là, pas besoin d'adhérer à des pratiques sportives très complexes. L'important, c'est de bouger. On revient encore à notre chasseur-cueilleur. Lui, pour survivre, chaque jour, devait bouger pour aller chercher de l'eau, chercher de la nourriture, chercher du bois pour faire un feu. Il devait bouger. Ce n'était pas une option pour lui de ne pas bouger. Et à tout âge, si le chasseur-cueilleur de 75 ans décidait d'arrêter de suivre son groupe nomade et de participer à la tribu, il s'isolait et il mourait. Il devait continuer. Alors que maintenant, après la retraite, alors que ça devrait être le moment où nous avons suffisamment de temps pour bouger, mais trop de gens vont devenir de plus en plus sédentaires avec l'âge parce que les problèmes de santé, de mobilité s'ajoutent. Alors, pour bouger, tout ce qu'il faut, c'est se mettre en action et avec une certaine intensité qui fait que, en fait, on parle d'une activité d'intensité modérée. Et la définition est que nous sommes capables de parler, mais pas nécessairement de chanter en fonction de notre niveau d'essoufflement, et de faire ça pour une période cumulative d'environ 150 minutes par semaine, donc 2h30. Okay. mais on peut pas se permettre de bouger de façon modérée en faisant une marche rapide ou peu importe, 150 minutes par semaine, mais s'asseoir tout le reste du temps. On passe environ 10 heures par jour assis.
Ah oui, c'est énorme.
Il faut essayer de profiter de chaque occasion pour se lever, pour bouger, prendre l'escalier, marcher pour aller faire ses courses, etc. Et ouais. Chaque petite occasion compte et fait la différence. Et pour moi, ce serait suffisant.
Je partage complètement, et c'est vrai que le fait d'être en mouvement, et puis après c'est un système, hein, on dit souvent mais voilà, si je vais faire du sport je vais être fatigué. Oui, bah sauf que quand on fait du sport, après tout dépend quel type de sport on fait, hein, mais généralement après une séance de sport le matin quand je me lève, bah, je suis beaucoup plus frais, plus dispo et beaucoup plus attentif à ce que j'ai à faire au travail par exemple, et donc en effet c'est ça booste vraiment tout ton corps derrière, donc ça c'est
sans aucun doute.
Il y a quelque chose que tu fais mention aussi, c'est le lien social. On a parlé d'alimentation, d'activité physique, mais mine de rien, tu parles de lien social quand tu fais référence justement à l'époque de la préhistoire notamment et de nos chasseurs-cueilleurs. Si on s'isole, ben en fait, il y a tout le système derrière qui est un peu cette pyramide qui s'effondre aussi quelque part. Alors que quand on est dans une dynamique avec des gens autour de soi où on va pouvoir communiquer et changer, là aussi il y a des choses positives qui arrivent. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Définitivement. Premièrement, l'isolement social, c'est clairement un facteur relié aux problèmes cognitifs dans le vieil âge. Premièrement.
Okay.
Deuxièmement, la santé psychologique, les liens sociaux sont tellement importants que l'American Heart Association, lorsqu'elle a défini ses 8 critères essentiels à une bonne santé cardiovasculaire, elle ne les a même pas inclus dans ces 8 essentiels-là. Elle a mis la santé psychologique et sociale autour pour dire à quel point elle était importante parce qu'elle venait influencer les 8 essentiels. En ce sens que quelqu'un qui a une moins bonne santé psychologique, quelqu'un qui sort peu de chez lui, qui n'a pas de relations sociales, a généralement tendance à être moins actif physiquement, à moins bien manger, à moins bien dormir, à avoir un poids plus élevé. Donc, tous des facteurs qui sont néfastes à la santé. Et ça me fait penser, je ne sais pas si en France, cette série-là a eu un bon niveau de popularité, la série Les Zones Bleues qui est parue sur Netflix. Vous connaissez? Okay.
Alors, je la connais pas, celle-ci. Les Zones Bleues, tu dis.
Ouais, Les Zones Bleues, secret de la longévité. C'est Dan Bretner, D-A-N-B-U-E-T-T-N-E-R, qui est un journaliste pour le National Geographic, qui a répertorié les 5 endroits sur Terre où il y avait le plus de centenaires. Il y avait un endroit en Californie, il y avait un endroit au Costa Rica, en Grèce, en Italie et au Japon. Et puis, quand on regarde les secrets de ces centenaires-là, ce n'était pas qu'il y avait un système médical très développé. Ce n'était pas qu'ils avaient un suivi médical très rapproché. Ces gens-là avaient la faculté de vivre vieux parce qu'ils étaient capables de retarder la maladie tardivement dans leur vie. Comment ils arrivaient à faire ça? En vivant tout simplement dans un mode de vie moins industriel. Parce que les endroits qui ont été identifiés sont des endroits qui sont plus isolés du reste du monde parce que c'est une île, parce que c'est un village en montagne. Donc, des endroits où le camion qui transporte boissons gazeuses et croustilles ne passe pas chaque jour là, au coin de la rue. Donc, c'est des gens qui ont un mode de vie plus ancestral à cultiver eux-mêmes leur nourriture, manger plus de végétaux, en moins grande quantité, moins de viande, bouger naturellement chaque jour pour justement s'occuper de leur bétail, s'occuper de leur culture, faire leurs travaux quotidiens. Mais aussi, comme ce sont des petits groupes, ce sont des gens qui ont un esprit familial, communautaire, social, mieux développé. Ils vivent dans des endroits où le niveau de stress est moins grand. Et ces gens-là ont une certaine spiritualité aussi. Ça, là, c'est les critères généralement qui font que nous sommes des humains et qui vont nous permettre de rester en bonne santé, tout simplement.
Ok. Non, mais c'est vrai que j'ai vu en fait cette mini-série sur Netflix. Ouais, je crois que c'est une série. Et en effet, elle est assez fabuleuse de voir que peu importe l'endroit du monde dans lequel tu es, mais si tu as des fondamentaux, ça permet justement de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Et encore une fois, c'est manger, bouger. C'est deux piliers quoi, qui sont très très forts.
Oui, puis ce qui est intéressant avec ce groupe-là, c'est qu'ils ont tenté de reproduire les conditions de vie qu'on retrouve dans ces zones bleues dans un milieu qui n'y ressemble pas du tout. Ils ont pris une ville, la ville de Albert Lea aux États-Unis, qui est une ville très moyenne au niveau socio-économique, au niveau santé, et pour essayer de faire bouger davantage les gens, parce que c'est moins pire en Europe, mais en Amérique du Nord, nous, nos routes et tout est fait pour les autos. Donc, nos trottoirs, nos pistes cyclables, nos transports en commun, c'est vraiment pas bien développé. Alors, eux autres, ils ont développé des moyens à l'intérieur de la ville pour favoriser le déplacement des gens. Ils ont créé des groupes de marche. Ils ont concentré les centres-villes parce que nous, on fait beaucoup d'éparpillement urbain. Donc, on se promène en auto d'un commerce à l'autre. Nous n'avons pas ces petits centres-villes typiques où on peut à pied faire l'ensemble de nos courses. Ils ont changé l'alimentation des gens en mettant en évidence dans les supermarchés les choix santé plutôt que toujours mettre des produits transformés de grandes compagnies en promotion ou en bout de rangée. Même dans les restaurants, ils s'assuraient qu'il y avait toujours une option végétarienne, ce qui n'est pas toujours évident. Si les gens s'achetaient un sandwich, l'option qui venait automatiquement avec leur sandwich, c'était la salade et non la frite. Alors qu'en Amérique du Nord, c'est la frite qui vient généralement. Le dessert était un fruit plutôt qu'un gâteau. Et ça faisait toute la différence. Et quand ils ont fait l'expérimentation pendant 6 ans, ils se sont rendus compte qu'au bout de 6 ans, les gens étaient beaucoup mieux. Leur cote de bonheur avait augmenté de 90 %. Les gens bougeaient 40 % plus. Et même, parce que eux, c'est des assurances privées, les demandes de frais aux assurances privées avaient baissé de 40 % pour la santé. Parce que justement, au niveau de la santé physique et de la santé mentale, à manger mieux, à bouger plus, les choses allaient tellement mieux.
Ouais, c'est dingue. Là, j'entendais un chiffre en France qui était 1 euro injecté dans la prévention, donc c'est-à-dire sur soi, donc bien manger, aller à la salle de sport, tous ces mécanismes-là qu'on a parlé, permettait d'éviter 6 euros à l'État. Donc j'injecte 1 euro, j'ai 6 euros, j'évite de payer 6 euros de frais santé aux Français. C'est juste énorme, ouais. En fait. Hein.
C'est énorme. Puis ça me rappelle un proverbe d'un monsieur qui s'appelait Edmond Tutu qui disait « Un jour, il faut arrêter de ramasser les gens dans la rivière et il faut se demander pourquoi ils tombent. »
Ouais.
C'est exactement ça, la prévention. Mais la mentalité de nos sociétés n'est pas là. Au Québec, nous, c'est 3 % de notre budget à la santé qui va en prévention. Donc, c'est une très petite portion qui est nettement, évidemment, insuffisante. Puis, une des raisons pour laquelle les gouvernements, les gens au pouvoir investissent peu dans la prévention, c'est, comme vous le savez, le but d'un politicien est souvent de se faire réélire lors de la prochaine réélection dans 4 ou 5 ans. Mais si on investit dans la prévention aujourd'hui, nous ne verrons pas nécessairement les résultats lors des prochaines élections. Alors, les gouvernements préfèrent généralement des mesures plus évidentes et pratiques comme nous avons injecté dans le traitement du cancer, dans des laboratoires pour traiter les maladies cardiaques, tant de millions de dollars. Ça paraît bien à leur enveloppe.
C'est
dommage. C'est dommage parce que la santé, c'est comme au Québec, on appelle ça un REER, un régime épargne-retraite. Donc, épargner pour sa retraite, si on veut avoir une belle somme au moment de notre retraite, bien, il faut commencer à cotiser jeune, un montant significatif, le plus souvent possible. Si on attend 2 ou 3 ans avant notre retraite pour commencer à investir, on sera assurément pauvre. C'est la même chose pour la prévention. Il faut commencer à y voir aujourd'hui si on veut un jour en récolter les bénéfices. Et je pense que nous sommes actuellement au pied du mur où nous n'avons plus le choix de considérer ça parce que avec la démographie de nos populations actuellement, nous au Québec, c'est 1 personne sur 4 qui est en haut de 65 ans. On commence à manquer de moyens financiers, mais aussi de ressources humaines pour s'occuper de ces gens-là qui vieillissent toujours un peu plus, mais pas nécessairement en santé. Et puis, on le voit bien, dans les dernières décennies, notre espérance de vie augmente sans cesse, mais notre espérance de vie en bonne santé, elle, fait du surplace. Elle stagne. Donc, l'écart entre le moment où on meurt et le moment où on devient malade ne fait que s'élargir. Et en moyenne, chez nous, les 10 à 15 dernières années de notre vie, on est malade. On a des maladies chroniques qui, pourtant, je le rappelle, auraient pu être prévenues dans une proportion d'au moins 75% par un mode de vie sain.
Ouais, c'est juste dingue. Donc un mode de vie sain, donc c'est manger correctement le plus sainement possible, faire de l'activité physique, je le rappelle, connecter avec les uns et les autres, pourquoi pas faire du sport en collectif, comme ça on se fait du bien dans tous les sens du terme, et puis se renseigner. Et comment on se renseigne justement pour celles et ceux qui veulent mieux manger, celles et ceux qui veulent en savoir plus mais qui ne sont pas médecins, comment faire?
Bon, la réponse facile à cette question-là, je l'ai dans ma main gauche. J'ai essayé de réunir de façon très, très simple. C'est très, très, très vulgarisé les principes fondateurs d'une bonne santé. Et si je l'ai fait, c'est justement pour essayer de venir contrer les sources peu fiables qui abondent sur les réseaux sociaux et sur l'Internet en général, de personnes qui disent « tout est rien ». Vous pouvez me nommer n'importe quel aliment, je vais vous trouver quelqu'un qui va dire que c'est bon, l'autre qui va dire que c'est moins bon. On est rendu à dire que les fruits et les légumes ne sont pas bons pour... Il y a un fameux chirurgien cardiaque américain que je vois toujours sur mes réseaux sociaux qui parle de lectine, donc un produit que les plantes ont pour se défendre contre les agresseurs et que cette lectine-là contenue dans les fruits, les légumes et la plupart des végétaux nous sont hautement toxiques. Voyons. Il a fait des millions avec ça, avec son livre. Bravo, félicitations pour lui. Mais il reste que ça ne battra jamais les centaines d'études qui montrent qu'un régime à base de végétaux est excessivement bon pour la santé cardiovasculaire, prévenir les cancers, prévenir les problèmes cognitifs, prévenir les syndromes métaboliques, le diabète, etc. Donc, peu importe le titre de la personne, peu importe que ce soit un médecin, une nutritionniste, vous allez rencontrer sur votre route toutes sortes de personnes qui disent n'importe quoi. J'ai essayé de contrer ça en essayant d'avoir quelque chose qui représente le consensus, parce que ce n'est pas... Il ne faut pas aller chercher une information sur la base de ce qu'un professionnel dit ou de ce qu'une étude isolée dit. Il faut aller voir le consensus scientifique. Et le consensus scientifique est généralement, presque toujours, la vérité. Et pour nous, en ce qui concerne l'alimentation, le guide alimentaire canadien est excessivement bien fait. C'est la première fois, il est paru en 2019 ou en 2020, c'était la première fois qu'on produisait un guide alimentaire exempt de toute forme de lobbying. Parce qu'avant, les producteurs laitiers, les producteurs de viande, il y avait beaucoup de personnes à table donc qui voulaient que leurs produits apparaissent sur le guide alimentaire. Mais là, maintenant, c'est un guide alimentaire qui est simplement pondu sur les données scientifiques. Et en gros, c'est simple. C'est une assiette typique, 50% de fruits et légumes, 25% de grains entiers et un 25% de protéines, donc de la viande, oui, du poisson, mais surtout et beaucoup de produits végétaux comme les légumineuses, le tofu.
Ouais, il y a des protéines végétales, hein, ça c'est important de le mentionner. Et c'est vrai que c'est. Et je pense que ça va aller de plus en plus dans ce sens. En France, il y a une start-up qui s'appelle La Vie. Et cette start-up, en fait, ils se sont dit comment on peut limiter notre impact environnemental tout en manger le plus sainement possible. Et c'est vrai que ça n'empêche que tout le monde mange du bacon, ou en tout cas tout le monde a pu en manger au moins une fois dans sa vie. On regarde les hamburgers, hein, que ce soit Burger King, que ce soit du côté de KFC, que ce soit du côté de McDonald's, on va en citer plusieurs parce que c'est important pour le média. Mais ça n'empêche que il y a du bacon et ce bacon il a un goût et ça n'empêche qu'il y a des gens qui se disent vu que c'est de la viande en fait c'est bon pour moi parce qu'il y a de la protéine etc. Et par contre quand il y a trop de végétaux c'est que je vais pas avoir assez à manger ou quoi que ce soit. Eux ils ont renversé la tendance et qu'ils ont créé en fait des goûts bacon ou même t'as l'impression de manger du bacon mais c'est des végétaux derrière et typiquement ils sont rentrés sur les burgers végétaux ou on va dire vegan de chez Burger King aujourd'hui et ça fait c'est en pleine explosion leur start-up et c'est une déontologie écologique une vision écologique et puis surtout de santé derrière. Je trouve ça assez intéressant.
Ah, c'est très intéressant. En Amérique du Nord, il y avait une grosse compagnie qui s'appelait Beyond Meat. Qui avait fait justement, qui était très populaire et puis là que les gens délaissent tranquillement pas vite parce que même s'ils produisaient des viandes végétales très apparentes, tant au goût qu'à l'apparence qu'en cuisson, on se rendait compte qu'il y avait beaucoup, qu'au final, c'était un produit transformé avec des ingrédients qui étaient plus ou moins bons pour la santé. Okay. Mais si on réussit à faire des produits qui ressemblent au plaisir gustatif de la viande, mais tout en demeurant bon pour la santé, on y gagnerait évidemment parce que, effectivement, les impacts environnementaux de la production de protéines animales est énorme. C'est en termes de pollution, c'est égal au transport, là, à la pollution produite par les transports, donc c'est beaucoup.
Ouais, je vais essayer de retrouver. Il y a aussi sur Netflix, j'ai commencé à regarder une mini-série sur la nutrition. Et c'est avec des jumeaux en fait où ils parlent justement de régime alimentaire. Donc le régime, hein, c'est vraiment le mode de fonctionnement, qu'est-ce que l'on mange. Et donc il y a des jumeaux, donc un jumeau qui lui va manger que de la viande et de l'autre quelqu'un qui va manger qu'en vegan. Et donc en fait ils sont, genre, j'ai pas terminé la série, mais en tout cas ce qui est prévu en tout cas, c'est que bien évidemment ils sont suivis sur tous le plan médical et l'impact de productivité, l'impact aussi sportif donc derrière et donc du coup on va très probablement voir que ceux qui mangent vegan vont avoir des statistiques beaucoup plus enclins en tout cas à quelque chose, à une santé meilleure en tout cas, ça c'est clair. Donc mais je vais retrouver tout à l'heure là-dessus. Donc ça c'est bien et puis il y a de plus en plus de gens qui sont dans cette philosophie et mine de rien la partie écologique on y vient de plus en plus, c'est peut-être un moyen de pouvoir aussi aller chatouiller ces personnes qui font pas forcément attention à leur santé, mais par le biais écologique on en parle de plus en plus. On sait que les nouvelles générations, je pense à la génération Z, sont ultra sensible justement à notre impact environnemental et c'est vrai que la philosophie Canopy c'est aussi le fait de limiter notre impact environnemental mais par l'humain, parce que je crois profondément au fait que si on n'est pas en bonne santé physique et mentale, en fait c'est difficile de faire des choses si elles sont pas ancrées pour limiter notre impact environnemental. Mais
c'est super important parce que on se rend compte que mondialement, il y a autant de gens qui meurent de la pollution que de la cigarette. Donc, la pollution, c'est vraiment quelque chose de très important. Ouais. Il y a une commission très sérieuse qui s'appelle EAT Lancet. Donc, EAT comme manger, EAT, ouais. Lancet, LANCET, qui est une revue très prestigieuse en médecine. Okay. Cette commission-là s'est penchée justement sur l'impact de notre assiette sur la santé globale. Parce que la santé globale, c'est la santé humaine, c'est la santé de nos écosystèmes, mais aussi la santé de notre planète. Bien sûr. Pour eux, il n'y a aucun bras de levier aussi puissant que notre assiette pour améliorer à la fois la santé humaine, la santé des écosystèmes et la santé de la planète. Et puis, c'est intéressant dans cette étude-là où est-ce qu'ils déterminent ce qu'on devrait faire pour améliorer la santé globale. Et ça dit, par exemple, qu'on mange 600% trop de viande rouge, 200% trop de poulet, d'œufs et de produits laitiers, mais on mange 50%, donc on devrait doubler notre consommation de fruits, de légumes, de noix et de certaines céréales. Donc, en gros, ce que ça vient dire, c'est qu'il faut rééquilibrer notre alimentation protéines végétales, protéines animales, pour améliorer à la fois notre santé à nous, mais la santé de notre planète, dont évidemment on dépend. Et puis, je pense qu'il n'y a personne qui peut nier ce qui se passe actuellement. On le voit bien, là, vous le voyez, vous, en France, les grandes canicules à chaque été qui sont plutôt accablantes. Oui. Moi, je le vois dehors présentement. Je n'ai jamais vu un hiver comme celui que j'ai actuellement. Il y a environ chez moi 25% de la neige habituelle au sol. Donc, autrement dit, il a neigé 4 fois moins qu'à l'habitude chez moi. Là. Donc, est-ce que c'est une année exceptionnelle? Peut-être, mais il reste que les exceptions se multiplient et on s'en rend compte que le climat change et ça fait partie de notre santé, ça.
Et ouais, ça fait partie de la santé globale, ce qu'on appelle One Health. Il y a un mouvement comme ça qui est assez intéressant. Ouais. Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire vis-à-vis de ton bouquin que tu aimerais qu'on mette en lumière? Là, c'est vrai qu'on a fait un bel éventail de la prévention, de ce que toi tu vois, mais avec ton regard scientifique, et ça c'est important pour nous, avec vraiment des études à l'appui. Est-ce que tu pourrais rajouter quelque chose?
Non, peut-être juste mentionner que il faut réaliser que notre corps, c'est comme notre voiture qui nous transporte, mais c'est elle qui nous transporte de notre naissance jusqu'à notre mort. Et que contrairement à notre voiture qu'on a dans la cour, qui elle, on peut la changer lorsqu'elle a accumulé un certain nombre de bris ou lorsqu'on en est tout simplement tanné, notre corps, on pourra jamais le changer. Et il faut réaliser que les options de réparation sont plutôt limitées. D'où mon titre, ton médecin ne te guérira pas. Et nous n'avons pas de pièces de rechange. On peut vous mettre une hanche en métal, on peut vous mettre une valve cardiaque artificielle, mais ces pièces-là ne seront jamais aussi confortables et aussi efficaces que la pièce d'origine. Donc, le vieil adage qui dit vaut mieux prévenir que guérir, c'est faux. On devrait dire vaut mieux prévenir puisqu'on ne peut pas guérir. Donc, les saines habitudes de vie sont la base de la prévention, mais il n'est jamais trop tard. Ouais. Même si on vous a déjà déclaré certaines maladies, en modifiant votre mode de vie, il y a moyen de peut-être renverser certaines de ces maladies-là ou de diminuer diminuer la quantité de médicaments qui vous est nécessaire en améliorant votre santé globale. Et puis, faut bien le réaliser, la santé, c'est plus que tout simplement ne pas être malade. La santé, c'est un état de bien-être. Et en mangeant bien, en bougeant, en ne fumant pas pour les Européens, en évitant de surconsommer de l'alcool, en ayant une vie sociale active, en dormant bien, vous allez aller chercher ce bien-être-là qui va se répercuter dans l'ensemble des sphères de votre vie. Et vous allez en être le premier grand gagnant.
Ouais, non mais tu prêches une fois de plus un convaincu, donc du coup clairement on peut aller que dans ce sens, ça c'est un fait. En tout cas c'était super super intéressant sur la partie prévention, et donc nous on est vraiment dans cette démarche, donc comme je le disais hein, on mettra tous les liens dans les notes du podcast et tout ce qui va avec, et puis on en parlera sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. On aime bien terminer notre épisode par des petites questions sur toi, qui es-tu un peu plus, donc quel est ton mode de fonctionnement, j'ai envie de dire, au quotidien, entre ton lever et ton coucher? Est-ce que tu as des routines particulières? Est-ce que tu vas faire un sport particulier? Qu'est-ce que tu mets toi dans ton quotidien pour être en bonne santé physique et mentale?
Ouais, Donc, à la maison, comme j'ai dit, j'ai 4 enfants qui sont âgés entre 6 ans et 16 ans.
Ouais.
Donc, ça prend quand même pas mal de mon temps. Le travail prend pas mal de mon temps aussi. Alors, j'essaie d'inclure l'activité physique comme je peux à l'intérieur de tout ça. Mais pour me garder la plus grande flexibilité, chez nous, j'ai une application de sport là où je fais là, différents mouvements qui sont très cardiovasculaires, mais musculaires à la fois aussi, comme une espèce de crossfit, on pourrait dire, mais à la maison.
Le 7-minute workout?
Comment?
Est-ce que c'est le 7-minute workout?
Non, c'est plus environ 30 minutes. Là, c'est un, moi, c'est l'application de Jimmy Sivigny là, qui est au Québec là, que j'utilise, qui est Activation avec un K que je trouve extrêmement bien fait. Sinon, l'alimentation est primordiale chez nous, tant parce que j'ai des enfants en croissance. J'ai la chance d'avoir une conjointe qui est diplômée en nutrition, alors ça, ça l'aide vraiment beaucoup. Maintenant, ma conjointe est vétérinaire, donc pour elle, le bien-être animal, c'est très important aussi. La santé des écosystèmes et de la planète est très important. Alors, chez nous, même si nous ne sommes, pour certains de nous, nous ne sommes pas exclusivement végétariens, notre régime est quand même très majoritairement végétarien. Et malgré nos horaires plutôt chargés, on se fait un devoir de cuisiner à peu près absolument tout. C'est très, très rare qu'on mange des aliments transformés à la maison. Donc, l'alimentation, c'est très bien. Je respecte très bien les recommandations que je prêche et qui sont reconnues. Pour l'activité physique, le 150 minutes d'activité par semaine, parfois, j'avoue que mon temps est limité et j'y arrive difficilement. À ce moment-là, je le triche. Parce qu'on sait que c'est 150 minutes d'activité physique modérée par semaine, mais ça peut aussi être 75 minutes d'activité physique intense. Alors, et intense, ce que ça veut dire, c'est que vous ne pouvez pas parler pendant que vous faites l'activité tellement vous êtes à vos limites. Alors, souvent, c'est comme ça que je réussis à tricher les choses. Évidemment, avec tout ce que j'ai dit, je ne fume pas. Et pour l'alcool, j'essaie de ne pas, mais en fait, je ne dépasse pas une consommation par jour, maximum deux, et certainement pas tous les jours. Voilà, j'essaie d'être équilibré. Le sommeil, c'est très important. Je me réserve toujours une bonne partie de ma journée pour dormir un 7 à 8 heures minimalement. J'essaie d'être équilibré dans les différentes sphères de ma vie avec, oui, mes enfants, mais ma conjointe, mes amis, mes collègues de travail. Pour moi, c'est la recette de la santé.
Et ouais, non mais on est aligné là aussi là-dessus. Et pour mieux dormir, comment toi tu fais? Est-ce que tu as des petites astuces?
J'essaie, tantôt je parlais du chasseur-cueilleur. Ouais. C'est vraiment mon modèle en santé. Parce que c'est sur lui que notre mode pour s'endormir a été calqué. Alors comment il s'endormait? Lui, il s'endormait quand le soleil se couchait, quand la savane devenait plus fraîche. Alors, c'est comme ça qu'il faut se coucher. Éviter tout ce qui est lumière, surtout la lumière bleue de nos écrans qui vient vraiment réveiller notre cerveau et le réactiver. Donc, laissez baisser la lumière. Soyez calme dans l'heure ou quelque chose comme ça avant d'aller vous coucher. Baissez la température dans votre chambre à coucher et laissez-vous partir. Puis, souvent, nos soucis du quotidien nous suivent dans le lit. Essayez de les jeter sur une feuille, écrivez-les, vous les reprendrez demain matin, mais essayez de mettre tout ça de côté, de chasser vos stress, vos craintes pour entrer dans votre chambre à coucher, préparé pour pouvoir vous endormir.
Ouais, c'est un super outil en effet. Toujours, moi j'ai toujours un calepin à côté de mon lit pour noter des idées, mais aussi pour quand on a un peu trop de choses dans la tête, on les lâche et puis ça nous permet de replonger dans les bras de Morphée comme il se doit derrière. Est-ce que toi quand t'as des coups de moins bien, parce que j'imagine que toi aussi ça arrive comme tout à chacun, est-ce que tu as un gris-gris ou quelque chose, un mantra que tu dis pour je sais que c'est de passade, ça va pas très bien là où il y a un petit coup de moins bien. Qu'est-ce que tu te dis ou qu'est-ce que tu fais si tu fais quelque chose et tu te dis quelque chose pour rebondir, pour aller plus vite?
généralement, quand un problème arrive, on a tendance à focusser sur ce problème-là et à ne voir que ça. Mmh. Et évidemment que là, ça devient envahissant et ça devient une véritable catastrophe.
Ouais.
Ce que j'essaie de faire à ce moment-là, c'est que j'essaie de prendre du recul, prendre de la hauteur et voir ça dans une perspective plus large. Et à me dire, bon, ma famille va bien, mes enfants sont en bonne santé, j'ai un bon travail, on ne manque pas de ci ou de ça. Il n'y a que ce petit point-là. Somme toute, c'est quand même pas si pire. Faisons avec ou essayons de s'arranger pour que ça, le problème passe.
Ok, belle philosophie en effet, et prendre du recul. Et c'est vrai qu'on a tendance en effet à avoir cette petite chose là qui nous affecte, alors que quand on dézoome, ben en fait ouais, on est pas si mal généralement.
Voilà.
Comment tu fais toi pour progresser dans la vie?
Ouais, parce qu'effectivement que ça peut devenir plutôt facile de s'asseoir sur ce qu'on a déjà et de rester là. Mais j'essaie d'aller tout le temps chercher le meilleur de moi-même. J'essaie de me lancer des nouveaux défis, comme le livre en était un. Si on m'avait parlé il y a 3 ans et quelqu'un m'aurait dit « tu vas écrire un livre », jamais je n'y aurais cru. Je me lance des défis, je me lance le défi d'y arriver. J'essaie d'être le meilleur de moi-même. Et c'est la meilleure façon, en passant, d'utiliser notre cerveau, parce que, bon, c'est évident pour les muscles que quelqu'un qui s'entraîne fort va devenir avec des gros muscles très forts, et quelqu'un qui, au contraire, est très sédentaire devient avec des muscles très atrophiés. Mais le cerveau, c'est la même chose. Et puis, la meilleure façon de muscler son cerveau, évidemment, on ne le muscle pas, là, mais de maximiser le nombre de connexions à l'intérieur de notre cerveau, c'est de lui lancer des défis. Et puis ça, c'est un problème dans notre société actuelle, où est-ce que nous sommes très spécialisés. Hein? Vous pouvez être un travailleur dans une usine où chaque jour, vous installez la même pièce. Mais ça, c'est l'équivalent de toujours marcher dans la même piste au niveau de votre cerveau, comme si on marche toujours au même endroit dans la forêt. La trail, le chemin devient très... tapé, on le voit très bien, c'est facile, mais la forêt autour pousse et ça devient difficile d'y marcher. Donc, il faut inventer des nouveaux chemins dans notre cerveau, il faut le surprendre, et c'est la meilleure façon de préparer notre cerveau pour le vieillissement, parce que c'est bien reconnu que à partir de l'âge moyen, il y a certaines connexions dans notre cerveau qui commencent physiologiquement à se déconnecter. Et plus, évidemment, le temps passe, plus il s'en déconnecte, plus que c'est là qu'apparaissent les problèmes de mémoire, les problèmes de démence. Mais plus la personne, justement, a fait des liens dans sa vie, a connecté des fils, plus elle s'est faite une grande réserve de connexion, moins ça paraîtra si on déconnecte des fils au fil du temps. Donc, c'est une belle façon, en se lançant des défis, de bien vieillir avec son cerveau, et ce, à tous les âges. Il n'y a pas d'âge. En fait, ça me rappelle une philosophie qui dit on meurt le jour où on cesse d'apprendre. Mais je pense que c'est bien ça.
Ouais, je pense que c'est bien aussi. Je suis assez aligné avec toi, et c'est vrai que se lancer des défis, ça permet de sortir de sa zone de confort, et du coup on se met un petit peu en danger, façon de parler, et donc on progresse quoi qu'il arrive en plus derrière, et on est souvent très content de l'avoir fait.
Exactement, c'est en se mettant en danger que lorsqu'on réussit à s'en sortir, qu'on éprouve le plus grand sentiment de satisfaction et de bonheur.
Et ouais. Si les gens veulent te contacter, un, est-ce qu'ils le peuvent? Et deux, si oui, comment ils peuvent le faire?
Donc, je suis sur Instagram sous le nom « Ton médecin ne te guérira pas ».
Ok.
C'est le principal endroit où je mets des résultats d'articles scientifiques ou certaines données que je trouve intéressantes et qui sont toujours très vulgarisées. J'ai aussi mon Facebook à mon nom personnel, donc un Facebook personnel non professionnel à mon nom, Sébastien Perron. Vous allez reconnaître mon visage. où là, je publie un peu moins, sauf certains grands thèmes. Donc, si vous voulez vraiment aller chercher le maximum, c'est via Instagram pour moi.
Ok. Bon, on mettra de toute façon tous les liens dans les notes du podcast là aussi, en plus du bouquin qui est vraiment important hein, de souligner. C'est vraiment une pépite à lire qui se lit facilement en plus. Donc allez-y et surtout que ça permet vraiment d'enclencher une dynamique pour celles et ceux qui veulent en savoir un peu plus sur le pourquoi de bouger et de prendre sa santé en main et en tant qu'individu et pas attendre que ce soit son médecin qui nous guérissent parce qu'on sait que ça fonctionne pas.
Exact, exact. Pour le livre, le bouquin, en Europe, nous ne sommes pas encore distribués largement. On peut l'avoir sur Amazon, on peut l'avoir aussi sur la librairie du Québec en France où il est disponible.
Yes, donc on mettra tout ça dans les notes. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs, Sébastien?
Prenez soin de vous. Réalisez que votre corps est votre outil le plus important que vous avez, que votre corps est votre objet de liberté, mais peut aussi devenir votre propre cercueil. Alors, préparez ce corps-là de la meilleure façon qui soit pour qu'il vous amène là où vous allez. Et n'attendez pas que les problèmes viennent en pensant tout bonnement que la médecine pourra un jour vous régler ce problème-là, parce que vous risquez d'être déçu. Si votre but, c'est d'être en santé et de ne prendre aucun médicament, la prévention est votre meilleure arme.
La prévention, on y revient encore une fois. Mais merci infiniment Sébastien pour ton partage, ta vision, ta bonhomie, ton énergie. En tout cas, voilà, on est ravis d'avoir des personnalités comme toi qui puissent intervenir et puis faire rayonner, mine de rien, celles et ceux qui veulent en savoir un peu plus sur eux et sur comment le faire surtout. Bon, en tout cas, merci. Et puis, toutes celles et ceux qui nous écoutent encore, je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec une personnalité aussi exceptionnelle que Sébastien. À très bientôt. Ciao, ciao.
Merci, bonjour.
Bravo. Vous avez écouté cet épisode de Génération Canopée jusqu'au bout. Merci de le partager à au moins 3 personnes autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Au-delà d'en avoir besoin pour être dans le top des classements, c'est hyper important pour nous. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de toucher un maximum de personnes qui méritent d'être plus heureuses, en meilleure santé et plus performantes. D'autant plus que, plus nous aurons d'abonnés, plus nous pourrons attirer des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Et si vous souhaitez passer un cap dans votre vie, pour être plus heureux, améliorer significativement votre niveau de santé et ou devenir plus performant, toute l'équipe de Canopy est prête à vous bichonner comme il se doit. Vous n'avez qu'une seule chose à faire. Créez votre profil sur canopy.com, canopee.com, si ce n'est pas déjà fait, et faire votre check-up bien-être. Du contenu gratuit et des praticiens vous y attendent. C'était Quentin Aoustin et je vous embrasse. Ciao, ciao.